France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La route des Indes. Après le Mercosur, les Européens signent un accord de libre-échange avec le pays le plus peuplé au monde. Nouveau débouché pour les voitures, le vin et les pâtes produites en Europe. Les travailleurs indiens, eux, auront des papiers plus facilement. Nous serons en Inde dans un instant. On détaillera aussi les chiffres de l'immigration pour 2025 en France. Plus de premiers titres de séjour délivrés, moins de régularisation. À suivre encore, les quatre départements bretons en vigilance orange crue. Nous serons dans le Morbihan. Le plan du gouvernement pour l'accessibilité des personnes handicapées au commerce qui fait flop, seuls 400 établissements l'ont sollicité. Les clés des municipales, notre rendez-vous chaque semaine avant les élections. Aujourd'hui, nous nous demandons ce que risque un maire. Nous serons avec Maxence Lambrec. Et puis l'intelligence artificielle, bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Qui revisite, et manifestement avec succès, un tube de Stromae.
Papa Outhet, sorti il y a 13 ans, une reprise version gospel cartonne sur les réseaux sociaux générée par l'IA. Mais qu'en est-il des droits d'auteur?
A tout de suite pour vos précisions. Nous vous présenterons aussi dans ce 13-14 ce lycéen normand qui marche 7 heures par jour pour les élèves qui, eux, sont contraints de se rendre à l'école à pied à travers le monde. À partir de 13h30, notre invité sera le préfet de Corse. Il nous détaillera le grand plan de lutte contre le crime organisé qu'il vient de présenter. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. De plus en plus de coureurs et de plus en plus de contraintes pour les organisateurs de courses à pied. Ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. L'actrice Aïssa Maïga demande Laurie Neal.
Cette chanson, elle raconte comment Laurie Neal est tombée enceinte, par accident comme on dit. Moi, ça venait résonner dans tous les endroits de mon corps, de mon âme, parce que quand je suis tombée enceinte, j'avais 20 ans.
To Zion, c'est le titre de cette chanson. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Les portes des États-Unis se referment, celles de l'Inde s'ouvrent aux Européens. Accord de libre-échange conclu ce matin entre l'Inde, donc le pays le plus peuplé de la planète, 1,4 milliard d'habitants, et l'Union Européenne, trois fois moins peuplée. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Vous nous direz, Fabien, précisément ce qu'il y a dans cet accord dans une minute. Mais avant cela, allons en Inde, à New Delhi, où vous vous trouvez. Bonjour Abdullah et Harali.
Bonjour.
Vous êtes en direct, Abdullah. Vous avez vu ce matin la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président indien, Narendra Modi, mettre en scène leur nouveau pacte.
Oui, alors cela s'est passé dans le cadre majestueux d'un ancien palais à New Delhi, la Hyderabad House, devenu un haut lieu diplomatique désormais. L'atmosphère était à la fois solennelle et chaleureuse pour la signature de cet accord de libre-échange. Dans la salle, une grande salle, Narendra Modi, Ursula von der Leyen et Antonio Costa se tiennent côte à côte et échangent des sourires et poignées de main. Une ambiance qui traduit la complicité et la cordialité qui marquent ces relations bilatérales. Antonio Costa a évoqué ses origines indiennes de Goa et a montré fièrement d'ailleurs son passeport OCI qui est destiné aux personnes d'origine indienne, symbole de son lien personnel avec le pays. Ursula von der Leyen a pour sa part parlé avec émotion de son attachement à l'Inde et de l'accueil exceptionnel qui lui est réservé. Narendra Modi, de son côté, a insisté sur la portée stratégique de ce traité. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'un accord commercial, mais d'un blueprint, qui veut dire un schéma directeur pour le futur partenariat entre l'Inde et l'Europe.
Voilà pour cet accord de libre-échange signé entre le Premier ministre indien et la présidente de la Commission européenne. Merci Abdullah et Harali en direct de New Delhi. Fabien Cazot, on vous retrouve à Bruxelles. Quel intérêt au fond pour les Européens de signer cet accord ?
Alors, c'est de bénéficier de droits de douane réduits, voire supprimés pour de nombreuses exportations, en particulier industrielles, les machines-outils, les avions, les équipements médicaux ou chirurgicaux. Le secteur le plus taxé sur le marché indien, l'automobile, verra quant à lui son taux ramené de 110% à seulement 10%. Des gestes commerciaux d'autant plus précieux, souligne le président du Conseil, Antonio Costa, au moment où Donald Trump fait de ses droits de douane un outil de pression sur les Européens.
Et les Indiens, Fabien, que cherche-t-il ? L'immigration de travail va être facilitée, c'est ça ?
Oui, pour les travailleurs saisonniers, les étudiants, les chercheurs ou d'autres emplois très qualifiés. L'Inde attend également des retombées économiques sur son sol en termes d'investissement et de transfert technologique. Quant à l'aspect purement commercial de l'accord, il devrait lui permettre de développer ses exportations de textiles, de cuir et de joaillerie vers l'Europe.
Merci Fabien Cazot, correspondant de France Inter à Bruxelles. L'immigration justement, les chiffres 2025, c'est-à-dire le bilan de l'an dernier pour la France, a été dressé ce matin par le ministère de l'Intérieur. 384 000 premiers titres de séjour délivrés. Caroline Félix, c'est un chiffre en hausse de 11% par rapport à 2024.
Et ces titres de séjour sont tout d'abord délivrés aux étudiants. C'est un tiers de ces premiers titres, des Chinois, des Américains, des Camerounais surtout. C'est ensuite pour motif familial, puis pour motif humanitaire que la France autorise les étrangers à séjourner sur son territoire. Le motif humanitaire qui augmente beaucoup, plus 65%, porté par les demandes d'Afghans et d'Ukrainiens. Ça monte partout donc, sauf dans le secteur économique, baisse de 13%. Il y a moins de saisonniers et de salariés étrangers qui viennent en France. Le directeur des statistiques migratoires l'explique par l'atonie de certains secteurs, celui du bâtiment notamment. Alors qui vient en France ? Ce sont d'abord des ressortissants des pays du Maghreb, mais la tendance est à la baisse, suivie des Afghans, de Chinois, d'Ivoiriens et d'Ukrainiens. Il y a en France en 2025 4,5 millions d'étrangers en situation régulière.
Caroline Félix, et il se trouve que ce matin également, le Centre français d'études et de recherche en économie internationale publiait son travail sur les travailleurs immigrés dans l'économie française. Bonjour Maxime Desch.
Bonjour.
Que représentent-ils ces travailleurs ?
Alors l'INSEE a très récemment fait les comptes et dénombré 380 000 immigrés en emploi de plus sur la période 2019-2024. La question que se sont posées deux économistes-chercheurs du CEPI, notamment Anthony Edo, c'est de savoir si les étrangers avaient un impact notamment sur le taux d'emploi des Français natifs. Et en moyenne, la réponse est plutôt non.
Globalement, l'immigration est une source de croissance économique. Même si elle peut avoir des effets sur certains secteurs particuliers, des effets négatifs pour les travailleurs en concurrence, l'immigration va permettre de lever certains freins à l'activité économique parce qu'elle permet par exemple à des métiers en tension, à des secteurs en besoin de main-d'œuvre, justement de pallier ces tensions-là et de croître et de grossir.
Si demain on réduisait l'immigration, assure encore ce chercheur, on réduirait le potentiel productif de l'économie qui tient particulièrement par cette immigration.
Dans le secteur de la construction notamment, il y a des études qui ont montré que l'immigration dans le secteur de la construction peut avoir tendance à tirer les salaires vers le bas du secteur en question. Et que, en général, ces effets plutôt négatifs sur les salaires se traduisent aussi par des baisses de coûts de production et par des baisses des prix des services de la construction, ce qui peut, selon certaines études, justement, bénéficier directement aux consommateurs qui peut gagner en pouvoir d'achat.
Où l'on pourrait également citer, Jérôme, la restauration ou les plateformes de VTC, de livraison, qui tiennent également beaucoup grâce à cette même immigration.
Merci Maxime Debs. L'Espagne, elle va adopter un plan de régularisation des sans-papiers, annonce de son gouvernement ce matin. Il pourrait bénéficier à 500 000 personnes. Il leur faudra simplement justifier de 5 mois de présence dans le pays. À l'opposé, la politique migratoire menée par Donald Trump aux États-Unis, une police de l'immigration, ICE, dont les effectifs ont doublé en quelques mois et dont deux agents viennent de tuer coup sur coup deux Américains à quelques semaines d'intervalle dans la même ville, Minneapolis, suscitant tout cela un tollé dans le pays et bien au-delà des opposants traditionnels de Trump. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
À tel point que le président américain rappelle une partie de ses policiers fédéraux ainsi que leur chef.
Oui, c'est presque une crise existentielle pour lui. Elle menace d'emporter sa politique de lutte contre l'immigration, devenue un pilier dans sa conquête de l'opinion. Elle fait aussi plonger les sondages déjà malmenés par la situation économique et elle affole des élus républicains, y compris ceux qui restent habituellement alignés sur Donald Trump pendant les tempêtes. Certains souhaitent maintenant une enquête indépendante. D'autres, comme Ted Cruz ou le gouverneur du Texas, ont demandé à la Maison-Blanche de changer de discours. Les propos incendiaires de plusieurs hauts responsables de l'administration qui ont traité les victimes de terroristes ne résistent pas à la diffusion virale des vidéos. Donald Trump a donc fait un choix. Deux lignes autour de lui s'affrontaient sur la manière d'appliquer appliquer sa politique en matière d'immigration. Il a choisi celle de son conseiller Tom Homan, partisan d'opérations plus ciblées, plus mesurées. C'est lui maintenant qui prend les choses en main à Minneapolis, au détriment des partisans d'une brutalisation extrême de la politique de l'immigration.
Décryptage signé Étienne Monin. J'ajoute, Étienne, que des agents de cette police ICE seront présents en Italie dans quelques jours pour une mission de soutien à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver. Ils ne sont pas les bienvenus à Milan, réagit ce matin le maire de la ville, élu de centre-gauche. ICE est une milice qui tue, dit-il. La mort de 3 touristes français à Oman. 2 autres ont été blessés dans le naufrage de leur embarcation au large du port de Mascate. Ce bateau transportait au total 25 touristes français. En Bretagne, c'est un paysage désolé avec des prairies, des champs sous les eaux. Les 4 départements bretons sont désormais en vigilance orange crue. Même s'il pleut moins aujourd'hui, la montée des eaux sur les fleuves est attendue en fin de semaine et sans doute le week-end, avertit ce matin le préfet de Bretagne, qui parle toutefois d'une crue moins haute que l'an dernier, mais ajoute-t-il, il faut rester prudent. Notre reporter Faouzi Trita, lui, est à Malétroit, dans le Morbihan. Le fleuve Oust déborde et cette commune a mis en place, il y a un peu plus de 10 ans, une réserve communale de la sécurité civile. 25 retraités qui se sont organisés pour aider les autres.
Ils sont partout, dans les rues de la commune, par petits groupes de 2 ou 3, avec leur combinaison orange fluo. Ils suivent les consignes des élus qui leur indiquent les besoins des sinistrés. Parmi eux, Yannick, 69 ans, retraité de la fonction publique.
On connaît les quartiers qui sont impactés. Donc on va déjà c'est ces gens-là, mais on sait ce qu'il y a à faire.
Poser des meubles sur des parpaings, protéger des portes avec des planches ou simplement prendre des nouvelles, ils sont aux côtés des habitants.
C'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est le principe du bénévolat. On est bénévole. Ça ne s'explique pas, on ne demande rien.
Sylvie les salue de sa fenêtre.
On les voit passer et moi je leur ai demandé si je pouvais avoir des parpaings pour les meubles. Et ils sont venus, ils sont rentrés, ils ont mis tous les meubles sur parpaings. Je trouve formidable ce qu'ils font. Voilà, c'est quand même une moyenne d'âge... assez élevé et ils passent d'un côté de l'autre du bourg, enfin c'est super, heureusement qu'on les a.
Charles, 69 ans, termine sa tournée. Il est fatigué, se frotte les yeux, mais il trouvera la force d'aider tant que tout ne sera pas rentré dans l'ordre.
Ça risque de durer, il est annoncé quand même de fortes pluies sur la fin janvier et début février, quoi, hein, donc ça peut durer peut-être un mois.
Et voilà. Vous êtes prêt à vous mobiliser autant de temps?
Oui, on est prêt, on a signé pour, donc voilà.
S'il y a un problème, vous rappelez la réserve. Voilà, bonne journée.
Reportage Faouzi Trita en Bretagne. Dans les Landes, le préfet du département démet de ses fonctions la directrice départementale de la police nationale. Il lui reproche de ne pas être intervenu pour faire cesser une manifestation non déclarée des agriculteurs. C'était il y a 2 semaines, ces éleveurs dégradés là à la préfecture. Selon le préfet, le syndicat des commissaires dénonce de son côté une décision arbitraire. Des agriculteurs mobilisés dans les rues de Toulouse. Ce matin, rassemblement à l'appel de la coordination rurale, rassemblement autorisé, toujours en opposition au traitement de la dermatose nodulaire. Pourtant, l'épidémie semble moins virulente. Le ministère de l'Agriculture a levé hier soir les contraintes qui pesaient sur le transport des bêtes dans 500 communes du Sud-Ouest. Et puis, à Marseille, une opération escargot ce matin, depuis l'hôtel de ville jusqu'à la préfecture, des chauffeurs de taxi mobilisés pour dénoncer le changement des règles pour la location-gérance au sein de leur profession. Les clés des municipales, c'est notre rendez-vous chaque semaine dans ce 13-14 pour tout savoir sur ces élections. Premier tour, le 15 mars. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour.
Chef du service politique d'Inter. Aujourd'hui Maxence, une question que vont forcément se poser les candidats. Maire, est-ce une mission à risque? Prenons un exemple pour mieux comprendre. Un maire organise un festival.
Et oui, il va d'abord chercher un prestataire pour la scène avec la sono. Et il se trouve que l'un de ses proches travaille dans ce domaine. Un ami d'enfance qui a créé sa boîte dans l'événementiel. Le budget, 35 000 euros. Pas besoin donc de faire un appel d'offres. Le plafond est à 40 000. Au printemps, il passera à 60 000 euros. On appelle ça une procédure de gré à gré. Mais attention, le maire doit se déporter. Autrement, ça relève de la prise illégale d'intérêt. Et désormais, il est conseillé au maire de quitter la pièce. Même sa simple présence peut influencer la décision. d'agression. David Rachlin, maire de Fréjus, a failli être condamné hier pour cela. Il faut écrire dans le procès-verbal « Monsieur le maire a quitté la séance du Conseil et n'a participé ni au débat ni au vote ».
Le premier piège vient d'être évité.
Oui, c'est le délit qui inquiète le plus les maires. Parce que la frontière n'est pas évidente, il n'est question ni d'enrichissement personnel, ni de corruption, ni même d'intention de nuire. Désormais, d'ailleurs, les conseils municipaux ressemblent un peu à des halls de gare. On s'assoit, on se lève, on part prendre un café si une connaissance est engagée dans la décision.
Quel est le deuxième risque juridique ?
Bien, c'est le délit de favoritisme, autrement dit le non-respect des règles, une procédure bâclée, là où la prise illégale d'intérêt sanctionne le mélange des genres. Ce sont des cousins dans le code pénal.
Et donc, ensuite, notre festival peut démarrer.
Ouais, et là, il y a un gros coup de vent. Une enceinte tombe sur un spectateur. Est-ce que le maire risque quelque chose ? Oui. Si le juge prouve qu'il a commis une faute d'une particulière gravité. Traduisons, le maire était au courant que la structure n'était pas bien montée.
Faut qu'il était prévenu.
Voilà, il y avait une alerte vent violent okay. ce soir-là et il a gardé la main sur l'organisation du festival. Ce qui, dans les faits, n'arrive jamais. Tous ou presque délèguent cette charge, souvent au directeur des services techniques. Il fait passer une commission de sécurité et se méfie des risques météo. Si le maire de la Faute-sur-Mer a été condamné à de la prison après la tempête Xynthia, en 2010, c'est parce qu'il connaissait les risques, qu'il a autorisé de multiples constructions, qu'il n'a rien fait cette nuit-là. Depuis, le plan communal de sauvegarde, le PCS, est devenu un incontournable. On l'entendait encore ce matin dans le Morbihan.
Je reviens à notre festival, aucune enceinte n'est tombée, la fête est finie, le maire ne risque plus rien.
Mais si, c'était super. Et le principal sponsor du festival invite la mère, son compagnon, ses enfants à Paris pour un dîner-spectacle tout frais payé. Cela caractérise une atteinte à la probité. Il faut se plonger dans les 62 pages du guide pratique de l'Agence française anticorruption. Depuis 3 ans, chaque commune doit avoir son référent déontologue, souvent un prof de droit ou un ancien magistrat, pour identifier les faux pas.
Est-ce que ce référent est souvent consulté ?
Et oui, puisque le nombre de procédures ne fait qu'augmenter, 17% de plus sur ce mandat, un élu poursuivi chaque jour en moyenne. 6 fois sur 10, ça ne donne rien. Le taux de condamnation est de 38%. Les maires voient la plupart du temps leurs frais de justice pris en charge s'il ne s'agit pas d'une faute individuel.
Merci Maxence Lambrecq, je vous dis à la semaine prochaine. Des élus devant la justice, voilà qui nous amène au procès des assistants d'eurodéputés du Front National. 11 cadres du Rassemblement National ainsi que le parti jugés en appel pour détournement de fonds publics. Ce matin, les juges interrogeaient Catherine Griset, rouage essentiel du parti puisque c'était l'assistante historique de Marine Le Pen. Et en 2010, cette femme a signé un contrat d'assistante parlementaire accréditée à Bruxelles. Problème, Sarah Guibaudot, elle n'y a quasiment jamais mis les pieds.
Catherine Griset a commencé à travailler pour Marine Le Pen quand celle-ci était une jeune avocate. Elles étaient toutes les deux dans la vingtaine, ne se sont quasiment jamais quittées. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent pour joindre Marine. En 2010, Catherine Griset signe ce contrat d'assistant parlementaire accrédité. 3000 euros net, une indemnité d'expatriation. Je n'ai vraiment pas fait ça pour l'argent, dit-elle. Elle a bien envisagé de s'installer à Bruxelles, mais finalement, je me suis aperçue que c'était trop dur pour ma fille. Mais vous y êtes quand même restée assistante parlementaire 5 ans, souligne la présidente. C'est vrai, mais je suivais ma députée, j'allais aux sessions à Strasbourg, je ne comptais pas mes heures. En 2015, Catherine Griset est quasiment tous les jours au siège du Rassemblement national à Nanterre, rappelle la présidente. Elle devient même chef de cabinet de la présidente du parti. C'est juste un titre honorifique. Pour moi, je n'ai jamais travaillé pour le parti. Je travaille pour Marine Le Pen. Vous êtes sur l'organigramme du parti, tranche la présidente. Et pourtant, vous êtes payée par le Parlement européen. Ça n'a pas pu vous échapper.
Sarah Guibaudot au palais de justice de Paris, lui, tente de se faire entendre parmi les multiples candidats potentiels à droite et au centre pour l'élection présidentielle. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal, secrétaire général du parti Renaissance, organise ce soir à Paris la nuit de la Nouvelle République. Nouvelle République, ce pourrait d'ailleurs être le nouveau nom de son parti dans quelques semaines. Et cela fait particulièrement réagir à Tours, la ville du quotidien régional qui porte ce nom, la Nouvelle République, journal qui parle même aujourd'hui de plagiat, Romain Desec.
Le parti du président de la République changera bientôt de nom. Problème, il opterait pour le nom d'un groupe de presse historique, le nôtre. Voilà ce qu'écrit l'ANR dans un éditorial hier soir. Le titre de presse quotidienne régionale ironise. La timidité de Gabriel Attal est émouvante. Le leader politique n'a en effet pas osé informer l'ANR de son idée. Faux. Répond ce matin l'équipe de l'ancien Premier ministre. Contacté, son entourage assure que la réflexion autour de ce changement de nom date de l'été dernier et que le président du directoire du journal, Olivier Saint-Cricq, en a été informé. Des juristes du parti ont aussi planché sur le sujet sans y voir d'obstacle. L'équipe de Gabriel Attal précise que ce changement n'est pas acté. D'autres noms de parti ont été proposés. La décision sera prise après les élections municipales. Nos confrères de la Nouvelle République, de leur côté, n'ont pas souhaité s'épancher sur le sujet.
Explication ici Touraine. C'était à l'origine un projet louable. En 2023, le gouvernement débloque 300 millions d'euros pour aider 100 000 commerces à financer des travaux pour être plus accessible pour les personnes en situation de handicap. De l'argent, par exemple, pour installer une rampe ou encore des portes plus larges. Mais au final, le dispositif tourne au fiasco à Liscachaner. Seuls 433 établissements ont bénéficié de ces aides.
La fermeture anticipée de ce dispositif est perçue comme un renoncement par Arnaud de Broca, président du collectif Handicap.
Ah ben, aux personnes en situation de handicap, ça envoie le message que c'est pas grave. C'est pas grave qu'elles puissent pas accéder à des commerces, que c'est pas gênant qu'un boulanger, un boucher, un autre type de commerce ait pas envie de se rendre accessible.
Malgré la loi de 2005, moins de la moitié des établissements recevant du public répond aux normes handicap. Les fonds territoriaux d'accessibilité prévoyaient de prendre en charge jusqu'à 20 000 euros de travaux. Mais les entreprises évoquent d'importants restes à charge. Le collectif handicap appelle à mettre en œuvre une politique de sanctions.
Le sujet, c'est qu'on se heurte aussi à des commerces qui n'ont pas envie de se rendre accessibles. Ce n'est pas normal que le gouvernement mette en place un système d'incitation et qu'il soit si peu utilisé. Et je pense qu'on a trop joué sur l'incitation et maintenant il faut accélérer sur les sanctions.
Le ministère en charge du handicap affirme que sur les crédits inutilisés, 2 300 000 euros seront transférés pour financer des solutions de téléphonie adaptées aux personnes sourdes et malentendantes.
Alice Cachaner, on vous parle régulièrement de ces personnes retrouvées mortes à leur domicile. Signe des temps, puisque les personnes isolées sont de plus en plus nombreuses. L'association Les Petits Frères des Pauvres a recensé, notamment sur la base d'articles parus dans la presse, 32 personnes âgées mortes seules l'an dernier à leur domicile. Et voilà pourquoi Erwan Chassin, l'association va lancer d'ici la fin de l'année un observatoire de la mort solitaire.
Les Petits Frères des Pauvres parlent de ces personnes âgées qui décèdent seules chez elles, sans bruit, dont les corps sont parfois découverts des jours, des semaines, voire des années plus tard. Et si rien n'est fait, le nombre de ces décès liés à cette solitude extrême ne va faire qu'augmenter. Alors que le nombre de personnes en situation de mort sociale, c'est-à-dire déjà plongées dans une extrême solitude, explose, prévient Isabelle Sénécal, responsable plaidoyer aux Petits Frères des Pauvres.
750 000 personnes en situation de mort sociale, des personnes qui n'ont pas ou quasiment pas de contact avec un entourage proche, avec des voisins. Puis on avait 300 000 en 2017. C'est une énorme progression.
C'est face à ce constat que l'association veut mettre en place cet observatoire.
Donc on a décidé de créer d'abord un comité scientifique pour voir plusieurs choses. La première, c'est une définition commune de la mort solitaire. La deuxième, une méthodologie pour essayer d'avoir un chiffre sur le nombre de morts solitaires en France.
Et la troisième chose, réfléchir à des préconisations à transmettre au pouvoir public pour trouver des solutions.
Le sujet n'est pas beaucoup évoqué, alors que c'est vraiment le pire de ce qui puisse arriver quand on a une personne âgée isolée.
Mais Isabelle Sénécal appelle aussi chacun d'entre nous à être vigilant. Une boîte aux lettres qui déborde, une lumière qui reste allumée, autant de signes qui peuvent nous alerter d'une situation de mort solitaire.
La forte baisse des fraudes à la carte bancaire. Début 2025, ces fraudes sont même tombées à un plus bas historique, nous dit la Banque de France. 211 millions d'euros de fraudes sur les 6 premiers mois de l'année 2025, en baisse de 10% par rapport à la même période en 2024.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Il n'a pas sorti de morceau depuis 6 mois maintenant et pourtant le chanteur belge Stromae est en tête des écoutes et avec un morceau qu'on connaît bien, Papa Outé, classé parmi les morceaux les plus écoutés au monde sur Spotify. Victor Vasseur, on vous retrouve. Bon, j'ai un peu dévoilé l'explication, l'intelligence artificielle est derrière tout cela. En fait, il s'agit d'une nouvelle version du morceau, un remix Afro Soul.
D'abord, écoutons quelques notes de la version originale, sortie il y a 13 ans.
Outé, papa, outé, outé, papa, outé,
On la connaît bien, celle-là.
On la connaît bien. Et à présent, celle diffusée depuis la fin du mois de décembre sur les réseaux sociaux. Des percussions, un orchestre de cordes, pas mal, oui, et des chœurs gospel pour accompagner ce chanteur. Un clip généré par l'IA publié sur YouTube il y a deux jours approche déjà les 400 000 vues sur les plateformes de streaming. Ce morceau comptabilise plus de 50 millions de streams, un carton également sur TikTok. Derrière cette reprise virale de mystérieux auteurs portés par un label indépendant suédois nommé Unjaps, habitué à diffuser des reprises créées par l'intelligence artificielle.
Donc ce ne sont pas de vraies voix qu'on entend là, on est bien d'accord, Victor. C'est un remix, il y a des millions d'auditeurs. Les droits d'auteur, qu'est-ce qui va les toucher? C'est Stromae?
Oui, la SACEM nous explique que ce morceau est totalement légal. Ce titre n'est pas considéré comme de la fraude, mais plutôt comme une reprise, car ni la mélodie, ni les paroles ne sont modifiées. Les ayants droit sont bien crédités dans cette version, poursuit la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Des droits d'auteur seront donc redistribués à la fois aux compositeurs comme Stromae de Papa Outé et au label qui l'a produit.
Explication, Victor Vasseur, lui, a le temps d'écouter de la musique. Nous voulions vous parler dans ce 13-14 d'un lycéen normand. Il a 18 ans, il se prénomme Mathis et il a décidé jusqu'aux prochaines vacances, le 13 février, de faire chaque jour l'aller-retour entre son domicile et son lycée de Caen à pied. 32 km aller-retour, 7 heures de marche par jour. Pour la bonne cause, pour collecter de l'argent pour les élèves qui partout dans le monde sont obligés d'aller à l'école à pied. C'est un reportage sur le Maroc qui l'a sensibilisé. Et Didier Charpin est allé à sa rencontre. C'était hier, Mathis venait de boucler son premier trajet, 16 km entre la maison et le lycée.
Ce lundi, Mathis a bouclé son premier trajet.
Ça va, il y avait la musique pour m'accompagner, 2-3 podcasts qui me faisaient avancer plus vite.
3h30 de marche pour ce jeune homme rompu aux randonnées.
J'ai des noix avec moi parce qu'il faut savoir que c'est plein de protéines. C'est limite plus protéiné que la viande.
Un sportif avec une conscience humanitaire également. Mathis connaît le quotidien d'enfants du Sahara qui n'ont d'autre choix que de multiplier les heures de marche pour aller à l'école.
Moi, je marche du coup pour me mettre dans leur situation à eux et aussi pouvoir sensibiliser et récolter des fonds pour pouvoir acheter des vélos à ces enfants-là qui réduit considérablement leur temps de trajet.
Il aimerait récolter en 3 semaines 1300 euros pour acheter 10 vélos. Un défi soutenu par le lycée Notre-Dame de Fidélité, spécialisé dans les métiers du secteur sanitaire et social. Yves Mavunza y est éducateur de vie scolaire.
C'est un projet assez ambitieux, ça donne un bel exemple. Et quand il en parle à ses amis, on voit bien qu'il y a quand même des étoiles dans les yeux.
Pour tenir, Mathis s'appuiera sur son mental, son envie d'aider les autres. Le jeune homme est également pompier volontaire et il souhaite devenir infirmier. Quant à sa famille, elle doit s'adapter à son caractère déterminé.
Mon père m'a donné je ne sais pas combien de trucs pour que je puisse être le plus visible possible. Les parents et la famille ont très peur, mais ils me soutiennent à fond dans le projet.
Certains jours, Mathis partira de chez lui dès 5h du matin, en plein hiver, le long de routes mal éclairées. Les automobilistes seront invités à être prudents quand ils croiseront ce jeune homme au grand cœur.
Donc le premier message, c'est la vigilance. Le deuxième, c'est la générosité. Vous retrouvez l'adresse de la cagnotte ouverte par Mathis sur ici.fr, reportage ici Normandie, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure de ce 13-14, la météo de Stéphanie Fromentin. Puis à partir de 13h30, l'État face au crime organisé en Corse. Le préfet de Corse annonce de nouvelles mesures. Formation des agents, aide aux entreprises rackettées. Il est notre invité. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. 13h45, notre feuilleton avec un champion de ski paralympique, c'est le Haut-Savoyard. Julien Segers, les Jeux paralympiques dans un mois et demi. En Italie, 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui?
Eh bien, de Avranches dans la Manche au Crotoy dans la Somme, en passant par Nîmes dans le Gard, je vous parle de la folie des courses à pied et des dossards qui s'arrachent.
Jérôme. Et avec vous, Frédéric, une actrice.
Aïssa Maïga, qu'on pourra voir demain au cinéma dans le film Promis le ciel. Et avec elle, c'est une chanson de Lauryn Hill que nous écouterons, To Zion, une chanson consacrée à son fils.
Voilà, c'est mieux avec un micro qui fonctionne. Je vous dis à tout à l'heure.
France Inter, 20h10, Eva Bester.
Ce mardi, avec la réalisatrice et comédienne Valérie Donzelli, nous parlerons de son film À pied d'œuvre, adapté du livre de Franck Courtès.
La 20e heure, tous les jours à 20h10 sur France Inter.
Chaque hiver, pour avoir bien chaud à la maison, c'est toujours le même dilemme. Soit je mets le chauffage, soit je mets un pull. Mais cette année, je vais plutôt mettre mon bleu de travail et lancer des travaux de rénovation.
Bonne idée, d'autant qu'à la Banque Postale, du 5 janvier au 1er mars 2026 inclus, nous vous réservons une offre spéciale sur toute la gamme de prêts personnels, auto, travaux ou projets.
Bon bah, il n'y a plus qu'à s'y mettre.
La Banque Postale, citoyenne.
Plus d'infos en bureau de poste et sur labanquepostale.fr. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur La Banque Postale Consumer Finance. Délai de rétractation de 14 jours calendaires. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur.
Mon petit France Inter, partenaire du film Les Légendaires.
Notre seule erreur a été de nous séparer.
Ils étaient les plus grands héros de leur temps, jusqu'à ce qu'une malédiction les fasse redevenir des enfants.
Si seulement quelqu'un pouvait inverser ce sort.
Réunis contre le sorcier d'Arkel, Danaël, Jadina, Griff, Chimie et Razia pourront-ils libérer leur planète?
En trois mots, dangereux, efficace, super cool.
Ça fait quatre, gros malin.
Les Légendaires, le 28 janvier au cinéma.
Légendaires unis un jour, Légendaires unis toujours.
Un film Mon petit France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et tous.
Et une journée au rythme des averses.
Des averses qui provoquent des risques de crues en Bretagne. Météo France a placé 4 départements en vigilance orange. Les Côtes d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Si ça se calme aujourd'hui à l'est, avec parfois même de belles éclaircies, les averses s'installent sur la moitié est, jusqu'en région PACA, mais aussi sur le sud-ouest. Elles sont parfois soutenues, ces pluies, voire orageuses, sur la Côte d'Azur. Et puis les chutes de neige sont de plus en plus marquées sur les Alpes, au-dessus de 1600 mètres, une dégradation qui va gagner la Corse en fin de journée. D'autre part, le vent souffle par rafale de 60 à 80 km par heure sur le Cotentin, les Pays de la Loire et la Bretagne, jusqu'à 90-100 sur le littoral du Finistère, 60-70 le long des Pyrénées.
Et des températures qui restent homogènes.
Alors à part près des frontières du Nord et de Grand Est jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté où les valeurs se maintiennent autour de 6 degrés, et puis aussi sur un tiers sud où le thermomètre affiche parfois 16 degrés, partout ailleurs vous passez la journée entre 8 et 12 degrés. Le grand écart est donc important entre les 4 degrés de Strasbourg, les 14 à Marseille, mais il fera 10 degrés à Paris, Tours, Bordeaux, 11 à Brest, Lyon, Cherbourg, Clermont-Ferrand et Perpignan.
Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Éric Jalon.
Bonjour.
Vous êtes depuis juillet 2025 préfet de Corse. Vous êtes en direct d'Ajaccio. Merci d'être avec nous dans ce 13-14. 01 45 24 7000 pour les auditeurs qui veulent vous interroger. Vous pouvez passer également, vous qui nous écoutez, via l'application Radio France et l'onglet Réagir. Éric Jalon, vous avez détaillé il y a quelques jours un plan pour adapter les moyens de l'État à la lutte contre la mafia. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État est dépassé par ces bandes, par ces organisations criminelles ?
Ça veut dire que l'État doit toujours renforcer son action. Vous avez vu que les autorités judiciaires se sont réorganisées avec une circulaire de politique pénale spécifique à la Corse prise par le garde des Sceaux Gérald Darmanin au mois de juin, la mise en place d'un pôle régional anticriminalité organisée, la mise en place récente d'un parquet national anticriminalité organisée. J'ai de mon côté proposé au ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, qui a validé ces propositions, 3 actions que j'avais présentées le 15 novembre dernier à l'occasion d'une manifestation anti-mafia à Ajaccio et que nous sommes en train de mettre en œuvre.
La menace est plus forte aujourd'hui ?
La menace reste très forte. La menace prend prise sur la société, incontestablement. Et c'est à ça qu'il faut que nous réagissions ensemble, à la fois en visant les auteurs, les acteurs de cette criminalité organisée, de cette emprise mafieuse, en renforçant, j'allais dire, les défenses immunitaires du corps social, à commencer par celles des agents publics, et en allant, en aidant ceux qui ont été victimes de la criminalité organisée à se relever dans leur activité économique.
Vous parliez des manifestations anti-mafia de l'automne, novembre dernier. Vous aviez détaillé pour la première fois votre plan à ce moment-là. Est-ce que ça a été aussi un déclencheur, un accélérateur pour vous de voir qu'il y avait un mouvement dans la société civile ? Éric Jalon, préfet de Corse, est-ce que vous m'entendez ? On va essayer de vous rappeler pour détailler ce plan anti-mafia, ce plan anti-criminalité. Est-ce que vous m'entendez, Éric Jalon ?
Oui, pardon.
Est-ce que vous m'entendez pour nous parler de ce plan anti-mafia, anti-criminalité ? Peut-être on peut vous joindre par téléphone. Est-ce que vous êtes... Oui, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Pardon. Oui, je parlais justement de la mobilisation de la société civile. Est-ce qu'elle a été un déclencheur, un accélérateur pour vous ?
Oui, je vous entends. Je pense qu'il y a une prise de conscience dans la société civile à laquelle mon prédécesseur et moi, à présent, nous avons, et les autres évidemment, nous sommes efforcés de répondre. Et l'utilisation du terme de mafia, d'emprise mafieuse, le fait qu'il y a eu ces manifestations organisées en février l'an dernier et en novembre cette année, ça montre qu'il y a une réaction de l'ensemble du corps social, c'est-à-dire des institutions, autorités judiciaires, administration de l'État, et de l'ensemble de la société pour réagir contre ce phénomène.
Depuis, Lille a été marquée par l'assassinat de l'ex-nationaliste Alain Orsoni. C'était le 12 janvier dernier, tué en plein jour alors qu'il assistait aux obsèques de sa mère. Est-ce que vous l'avez pris, Éric Jalon, comme un défi à l'autorité de l'État ?
Malheureusement, on n'a pas attendu le 12 janvier dernier pour être confronté à ce défi à l'autorité de l'État. Et je ne vais pas égrener la liste triste des assassinats, y compris ceux qui ont marqué ces derniers mois ou ces dernières années. Ce défi, vous savez, je l'ai devant moi à chaque fois que je vois une entreprise qui arrête son activité parce que son outil de travail a été dégradé à plusieurs reprises. Je l'ai devant moi quand les élus me parlent, et je cite, de cette main invisible qui peut se poser sur leur épaule à n'importe quel moment. Je l'ai devant moi quand des agents de l'État qui sont en situation de contrôle me disent qu'on leur dit « mais vous savez à qui vous avez affaire ». Donc cette pression de type mafieux, elle est là, elle est présente, et c'est ce qui s'est passé le 12 janvier, cet assassinat nous rappelle qu'elle est présente sur l'île.
Vous n'aviez pas réagi officiellement dans les heures qui ont suivi cet assassinat. Pour quelle raison ?
Parce que je ne réagis pas habituellement aux circonstances, aux faits qui font l'objet d'enquêtes judiciaires. Mon rôle, c'est d'être dans l'action, c'est d'organiser la réponse des services de l'État. Et c'est ce que j'ai fait à travers les trois initiatives que nous avons prises et qui sont d'ores et déjà en cours de mise en œuvre.
Alors justement, ce que vous mettez en œuvre, les groupes d'évaluation de la criminalité organisée qui vont réunir services de l'État, services judiciaires, services de police. Pourquoi faire, Éric Jalon ? Pourquoi faire de plus ?
C'est une méthode qui a déjà porté ses fruits dans d'autres secteurs, la lutte contre la radicalisation, la lutte contre les narcotrafics, la lutte contre les séparatismes. Il s'agit de réunir des acteurs administratifs, judiciaires, de partager un certain nombre d'informations, bien évidemment dans le respect du secret qui s'attache à chacune des institutions, de se donner ensemble des priorités et de coordonner l'action des autorités administratives et des autorités judiciaires. Parce que nous avons tous des leviers, des moyens de contrôle pour mettre en place des stratégies de contrôle systématique sur certaines activités, sur certains secteurs. Le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, parle de harcèlement. Le procureur général Bastia a parlé d'entrave. On est dans cette logique où on se donne des priorités, on partage nos objectifs et on coordonne nos actions pour être plus efficaces.
Ça veut dire que, par exemple, des fonctionnaires de l'État vont trouver une situation ou une déclaration louche, suspecte, et ils peuvent en faire part au service du procureur ? Ça peut fonctionner comme ça ?
Ça peut fonctionner comme ça. Ça, c'est un des points que nous mettons en évidence dans la formation des agents publics. Effectivement, c'est la culture de la vigilance et du signalement. Le signalement, c'est pas toujours facile parce que quand on voit un élément, cet élément à lui seul ne suffit pas toujours à caractériser un délit susceptible d'être transmis au procureur de la République. D'une part. D'autre part, quand on fait un signalement au titre de l'article 40 et que le procureur s'en saisit, on peut se trouver, celui qui est l'auteur du signalement peut se trouver lui-même exposé. Et donc, il y a ici, c'est le rôle de la coordination pour la sécurité en Corse, un service qui peut compléter ce signalement, qui peut procéder à des recoupements, à des consolidations, et ensuite saisir le procureur de la République sous ma signature, ce qui fait que l'agent qui est à l'origine du signalement lui-même n'est pas exposé.
L'agent, il peut avoir été exposé à des menaces orales. Il y a des dispositifs de protection qui peuvent exister. À qui est-ce qu'il peut en parler ?
Il peut en parler précisément à la coordination pour la sécurité en Corse. Il peut en parler à sa hiérarchie. Il peut, de manière générale, être effectivement attentif. Pourquoi cette attention particulière ? Les agents publics, ils prennent des décisions ou ils préparent des décisions qui sont évidemment des décisions d'intérêt. Et d'intérêt particulier pour certains acteurs de la criminalité organisée, parce qu'ils vont examiner un permis de construire ou l'autorisation d'établir un restaurant sur une plage ou d'autres autorisations administratives, d'une part. Donc ils peuvent voir des choses, mais ils peuvent être aussi exposés. Il ne s'agit pas de les soupçonner, il s'agit de les rendre vigilants. Et puis d'autre part, ces agents publics, ils ont une vie après le travail, si je puis dire, et donc dans leur quotidien, ils peuvent être effectivement, comme vous le dites, exposés à des pressions plus ou moins directes, plus ou moins insidieuses, dont il faut qu'ils se protègent. Et l'objectif justement de ce mode de traitement du signalement, c'est de les protéger de ce type de pression.
Certains de ces agents sont actuellement sous protection ?
Je ne vais pas vous donner ce type d'informations, mais on a des dispositifs qui permettent à ces agents de procéder à des signalements en toute sécurité.
De la même façon, est-ce que vous avez eu des affaires de corruption, des agents tentés ou qui ont succombé à des tentations, à des propositions ?
À chaque fois qu'il y en a, il y a des procédures disciplinaires et des procédures judiciaires. Qui sont connus, et ça peut être le cas ici, comme ça peut être le cas ailleurs, et on a toujours une très grande vigilance sur ces situations. Et dans la formation des agents, nous leur rappelons leurs obligations, et nous leur rappelons aussi les sanctions disciplinaires ou pénales auxquelles ils s'exposent dans ces cas-là.
1000 agents de la fonction publique en cours de formation, le plan sera achevé quand, en tout cas pour la formation, Éric Jalon ?
1000 agents de la fonction publique, ça correspond au périmètre de ce qu'on appelle l'administration territoriale de l'État, c'est-à-dire les deux préfectures, les directions départementales des territoires, de la mer et du littoral, des affaires sociales, les directions régionales. Et ça, on va le déployer tout au long de l'année 2026. Ça veut dire une centaine d'agents formés par mois. C'est le rythme auquel on est aujourd'hui. Et on pourra ensuite élargir évidemment à d'autres secteurs de la fonction publique.
C'est une formation unique en France ?
C'est une première en France, à ma connaissance, qu'on a faite sur mesure. C'est une formation qui dure 2 heures environ, au cours de laquelle mes équipes, comme je viens de vous l'indiquer, présentent ce qu'est la criminalité organisée, disent aux acteurs, aux agents publics, dans quelles circonstances ils peuvent déceler sa présence, leur rappel, leurs propres obligations déontologiques et les conséquences que ça peut entraîner de ne pas en tenir compte, et surtout leur donne le mode d'emploi pour signaler les cas qui leur paraissent susceptibles d'interrogation, on va dire.
Alors, dans ce plan, Éric Jalon, vous êtes le préfet de Corse, il y a aussi un accompagnement, un soutien pour les entreprises, celles qui sont victimes de chantage, d'extorsion de fonds notamment. Vous constatez une hausse de ce phénomène ?
On constate une forte présence de ce phénomène, assurément, et on l'a vu cet été, il y a eu des incendies de bateaux, il y a eu un certain nombre d'incendies criminels d'établissements commerciaux qui ont été soulignés par la presse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les acteurs de la criminalité organisée obéissent à un cycle dans lequel ils engrangent des profits avec des activités illicites, et ensuite, ils procèdent à du blanchiment. Donc, il y a des secteurs qui se prêtent.
Mais l'objectif,
plus ou moins
en fait, leur objectif, c'est quoi ? C'est de prendre le contrôle, en fait, de ces entreprises ?
L'objectif, c'est de prendre. C'est soit d'évincer un concurrent, soit de prendre le contrôle d'une entreprise pour se retrouver seul à maîtriser un pan entier de l'économie et de la vie locale, et à agir de manière à avoir les mains libres.
Et qu'est-ce que vous dites, vous, aux entrepreneurs qui sont sous ces menaces ?
Ce qu'on dit aux entrepreneurs qui sont sous ces menaces, c'est de venir nous en parler, d'une part, et c'est d'autre part que nous mettons en place un accompagnement qui peut leur permettre de réagir, de faire face à ces difficultés, avec la mobilisation d'instruments qui existent, c'est-à-dire pour l'étalement de charges fiscales ou sociales, voire dans certains cas des remises, pour faire appel à des aides et pour les aider donc à renforcer leur position. C'est un dispositif que nous commençons, donc on est en train de recenser l'ensemble des outils disponibles. Il faudra sans doute inventer d'autres outils, il faudra sans doute aller travailler avec les acteurs du secteur bancaire ou du secteur de l'assurance pour qu'ils prennent en compte spécialement ces situations et l'attention que l'État leur apporte. Là, on est en train à la fois de monter le dispositif et de répondre aux premières demandes d'entreprise. Donc, on construit cela en marchant.
Question de Christine qui nous écrit via WhatsApp concernant la lutte contre la mafia en Corse. Pourquoi ne pas commencer par interdire qu'un commerçant puisse refuser les paiements par carte bancaire, nous dit-elle. Pratique courante en Corse, au moins on pourrait tracer l'argent. Éric Jalon.
Oui, c'est une question. Le paiement en liquide sont autorisés. C'est vrai que dans un certain nombre de cas, ils peuvent faciliter le blanchiment. C'est certain.
Un commerçant a le droit de refuser un paiement par carte bleue ?
Un commerçant a pas. Il faut toujours deux modes de paiement.
Ouais.
Il faut toujours deux modes de paiement, mais un commerçant a le droit d'accepter un paiement en liquide. C'est surtout ça. Et on voit la pratique qui peut être une pratique de blanchiment, qui est d'accepter ou de prendre un certain nombre de paiements en liquide, qui ne sont en fait pas véritablement le paiement de prestations, mais qui permettent de blanchir des sommes importantes.
Merci Éric Jalon d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions et à celles des auditeurs aussi dans ce 13-14, préfet de Corse en direct d'Ajaccio, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Nous passons toute cette semaine avec le paraskieur Jules Segers, 23 ans. Il est né avec une hémiplégie, c'est-à-dire une paralysie partielle de son côté droit. Il sera dans un mois et demi l'un des atouts de l'équipe de France de ski alpin aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina. Nous le suivons dans sa préparation et aujourd'hui les questions de chute et de confiance en soi.
Il y a eu énormément de moments où je me suis fait peur. J'ai fait pas mal de commotions cérébrales suite à des chutes. Où il y a même une fois où je n'ai même pas reconnu mon frère. C'était dans ma station au jet. J'étais tombé sur la glace. Je me souviens m'être assis à côté d'un canon à neige. Et là, plus rien. Et mon frère qui est moniteur passait avec un cours de ski et il m'a demandé « Ça va, Jules ?» Et moi, je lui ai dit « Tu es qui ?» Et donc, il m'a dit « Oula !» Effectivement, il y a quelque chose qui va pas. J'en ai eu d'autres, des commotions cérébrales. Et forcément, quand on fait du ski, c'est un des sports non motorisés les plus dangereux. Et on accepte ce risque. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de la préparation mentale aussi, pour accepter ce risque. Donc, c'est vraiment quelque chose que je sais qu'il y a un risque en faisant du ski, mais ça n'empêche pas que la passion est là. Je dirais que je suis assez fonceur, oui, optimiste, j'essaye de l'être, je ne l'ai pas toujours été. Alors c'est haut et c'est bas, oui, notamment forcément au collège, ça a marqué des moments pas forcément faciles, qui ont pu détruire notamment la confiance que je pouvais avoir en moi-même. Cette confiance, il a fallu, je pense, un petit peu la reconstruire.
Allez, tu restes bien devant moi, face à moi.
Face à moi.
J'ai mes injections à droite, si jamais.
On a beaucoup d'écoute. Et donc, à travers l'écoute, on va essayer de trouver 2-3 mots-clés qui vont les aider justement à les remettre sur de bons rails et à sortir de leurs doutes ou de leurs questionnements internes. Bonjour, Jérôme Lepage, ostéopathe. On est technicien pour la préparation des compétitions et tout. Et après, on est beaucoup à l'écoute de leurs ressentis, de leurs problèmes, que ce soit émotionnel ou affectif ou de doute. Voilà, on essaie de les soutenir, en plus du rôle mécanique, on va dire. Et puis nous, en ostéopathie, on va énormément ressentir les tensions du corps. Si on voit que l'athlète arrive un petit peu plus tendu, un petit peu plus fermé, verrouillé, ça veut dire qu'il est en plein questionnement. Donc on essaie aussi de l'aiguiller à travers nos questions pour qu'il se lâche un petit peu et on voit si son corps lâche sous nos mains. Quoi. Voilà. Jules, il va se livrer, il a envie de se lâcher en première intention. Et puis après, il faut chercher. Il est un peu tête en l'air des fois, donc il va se livrer sur certaines choses tout de suite qui vont venir. Et en fait, c'est pas le plus important pour nous. Donc après, il faut aller poser les mains à droite à gauche, et au fur et à mesure, il nous dit, ah tiens, j'ai eu ça, ah j'avais eu ça il y a une semaine, ah j'ai eu ça il y a un mois, ah j'ai eu ça sur une chute il y a 3 mois. Il faut vraiment l'englober, ou nous en ostéopathie on dit le lover, quoi. Il faut l'aimer, aller chercher les choses qui nous cachent ou que lui des fois se cache avec les mains et avec aussi la parole pour que lui s'ouvre complètement au fur et à mesure de la séance.
Voilà. Ok, tourne ta tête à droite. Ok, de l'autre côté, tranquille, vas-y, tranquille. Refais-moi le premier mouvement. Voilà, parfait.
Il faut savoir que quand on s'élance sur des courses à plus de 100 km/h, il faut avoir confiance en soi, parce qu'il faut savoir se dire, tu sais le faire, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, que la course se passe mal, et en fait, livre-toi, tu as les capacités, tu as les capacités en possession de toi, donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir confiance en soi, parce que je pense que cette confiance, si on ne l'a pas, on ne peut pas vivre la même vie.
Ta cheville, tu la sens comment ?
Ouais, ça va encore.
Une semaine dans la vie de Jules Segers, la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mardi 13h50. Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ses petites histoires qui en disent long. Aujourd'hui, Cyril, petites histoires de course à pied.
Et je vous emmène, Jérôme, en courant, évidemment, à Avranches. Samedi soir, 985 coureurs ont parcouru la commune manchoise. C'était lors du trail des manuscrits, 11 km entre campagne et ville, avec traversée de lieux emblématiques comme la mairie et grimpette de dizaines de marches. Au total, 300 mètres de dénivelé, ce qui n'est pas rien, mais il n'y a pas que le parcours qui monte, Jérôme. Les inscriptions aussi, c'est une affluence record, s'est réjoui dans Ouest France le président du triathlon club du Val-Saint-Père.
Oui, car partout, les dossards pour ces courses s'arrachent.
Et il est souvent plus compliqué d'obtenir un sésame pour prendre le départ d'une course que d'en rejoindre l'arrivée. Épreuves sur route et trail font souvent le plein, longtemps à l'avance. C'est de la folie, me dit-on partout. Exemple, les 18 000 places du marathon de Lille, qui fait son grand retour cette année, sont parties en moins d'une journée, 10 mois avant la course. Idem pour de plus petites épreuves. Ainsi, les 1300 dossards du 21 km de Saint-André-des-Eaux en Loire-Atlantique ont trouvé preneur en, Jérôme, 2 heures. Ouais. Preuve qu'avant de trottiner, il faut savoir sprinter.
Et pourtant, le nombre de courses ne cesse d'augmenter.
11 000 ont été organisées en 2024, selon la Fédération française d'athlétisme. C'est 1 000 de plus que l'année précédente et ça continue. Parmi les lancements de 2026, le trail des forteresses à Calais, la 15 km carrée appartenait dans les Deux-Sèvres, les 10 km de Montmartre à Paris, ou le retour après 7 ans de la mythique Transbay entre le Crotoy et Saint-Valery-sur-Somme. Selon les derniers chiffres, Jérôme, et je sais que vous en êtes, 12,4 millions de Français courent, dont 8 millions au moins une fois par semaine.
Mais pourquoi tous ces gens passent-ils leur temps à courir ?
D'abord pour des raisons de santé, entretenir son corps et évacuer le stress. Avant des raisons sportives, se challenger, nous apprend une étude de l'Union Sport et Cycle. L'envie de contact avec la nature explique aussi le succès grandissant des trails. Et puis il y a le défi personnel. Beaucoup rêvent par exemple de terminer un marathon pour leurs 40 ans. Ce n'est ni facile ni impossible. Autre avantage, on peut courir quand on veut avec peu d'équipement, même si le running est devenu un business qui peut vite coûter cher avec une nouvelle dépense. Cette année, le pass de prévention santé qui a remplacé en 2024 le certificat médical de non-contre-indication. Il était gratuit jusque-là et vient de devenir payant 5 euros par an, ce qui agace de nombreux coureurs.
Et les organisateurs font face à de nouvelles difficultés.
Gérer les frustrations de ceux qui n'ont pas de dossard ou la colère des automobilistes qui se plaignent des routes fermées. Assurer la sécurité avec des pelotons qui grandissent, retracer les parcours pour préserver les littoraux par exemple, boucler les budgets et puis trouver les indispensables bénévoles qui distribue les dossards, assure les ravitaillements ou surveille les routes. À Nîmes, dans le Gard, l'Urban Trail en cherche encore une soixantaine pour le 15 février, nous apprend ici.
Mais à la fin, Cyril, ces courses sont vraiment des temps forts dans la vie locale.
De vraies fêtes même, où l'on court souvent sans objectif de chrono, ici déguisé, là pour la bonne cause, avec des frais d'inscription versés à des associations, ailleurs pour les ravitaillements de spécialité locale. Justement, dimanche à Douvres, la délivrante dans le Calvados aura lieu, la ronde des galettes. 5 courses différentes, dont la course fève de 5 km et la course couronne de 10 km. Et qu'est-ce qu'on gagne, Jérôme, à l'arrivée ?
Il n'y a pas la course frangipane ?
Non,
mais à la fin... Alors qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne une galette, non ?
Une part de galette, évidemment, mais malheureusement, Jérôme, là aussi, c'est complet.
Oui, c'est trop tard. On la fera l'année prochaine, peut-être tous ensemble, ça peut être une bonne idée. C'est la France, tous les mardis avec Cyril Petit. C'est une chanson Frédéric Pommier, avec vous, une actrice, une réalisatrice, c'est Aïssa Maïga.
Aïssa Maïga qui tient le premier rôle du film d'Erich Seiri, Promis le ciel. Un film présenté dans la section Un certain regard au dernier festival de Cannes. Il sort en salle demain et c'est de Lauryn Hill qu'Aïssa Maïga souhaitait me parler.
Lauryn Hill, je l'ai écoutée d'abord dans Les Fugees. Et après, j'étais très très curieuse, je me souviens, d'entendre son album solo. Et j'ai adoré tout de suite, j'écoutais vraiment en boucle. Je l'écoutais avec mes copines, je l'écoutais toute seule en lisant les paroles parce que je voulais tout connaître par cœur. Je l'écoutais en faisant le ménage, je l'écoutais dans mon Walkman quand je traversais Paris en roller. Je l'écoutais tout le temps. Lauryn Hill faisait partie de ma vie, vraiment.
Elle faisait partie de votre vie un peu comme une copine ?
Ouais, presque comme une copine, en tout cas une complice, quelqu'un avec qui on se sent en phase, ce qu'elle racontait dans ses chansons, que ce soit l'amour ou la question de la confiance en soi, de croire en ses rêves, la place des femmes, tout ça avec vraiment des sons aussi bien mélancoliques que des sons sur lesquels on danse jusqu'au bout de la nuit. Ouais, tout ça, ça a compté. Et ça a accompagné une partie de ma petite vingtaine. Unsure what the balance held, I touched my belly overwhelmed by what I had been chosen to perform. But then an angel came one day, told me to kneel down and pray, for unto me a man child would be born. Oh, this crazy circumstance, I knew his life deserved a chance.
Ce morceau de Lauryn Hill, Frédéric, s'appelle To Zion. Zion, c'est le prénom de son premier enfant.
Et chaque phrase, chaque mot de cette chanson sortie en 1998, Aïssa Maïga aurait pu les prononcer elle-même à cette époque-là.
Cette chanson, quand je l'entends, mon fils aîné est déjà né. C'est un tout petit garçon. Et en fait, cette chanson, elle raconte à la première personne comment Lauryn Hill est tombée enceinte, par accident comme on dit. Et puis tout le monde lui a dit, ne le garde pas, t'es jeune, t'as une carrière qui commence. Et en fait, cette chanson, elle l'adresse à son fils et elle lui dit à quel point ça a été un cadeau pour elle, cette surprise de la vie, à quel point ça l'a connectée à quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle, à quel point elle lui souhaite une existence merveilleuse. Et moi, ça venait résonner dans tous les endroits de mon corps, de mon âme, parce que quand je suis tombée enceinte, j'avais 20 ans, et que beaucoup de gens, mais par pure bienveillance, hein, m'ont conseillé à l'époque de ne pas le garder. J'étais trop jeune, je commençais à être actrice, etc., etc. Donc en fait, elle parlait pour moi.
Vous aviez donc 21 ans lorsque vous avez accouché ?
Oui, tout à fait. J'avais 21 ans.
Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous en devenant mère ?
Rien. En fait, je pense que ça a simplifié ma vie. J'avais besoin, envie, j'étais en phase, j'étais prête à avoir des enfants. Et en fait, c'était plus une formidable lumière en plus dans ma vie.
Quand vous écoutiez cette chanson-là au moment où vous êtes devenue mère,
oui.
Est-ce que ça vous rassurait un peu ? En fait, je suis dans la même situation, elle s'en sort, je vais m'en sortir aussi, tout va bien se passer.
Ah, peut-être. Ce dont je me souviens, c'est de l'énergie qu'elle me donnait. C'était quelque chose de l'ordre d'une victoire sur la vie. Et je pense que j'avais besoin de ça, comme j'ai eu une enfance et une adolescence un peu cabossée, mais bon, comme plein de gens. Hein. Je pense que j'avais besoin de remporter une victoire qui était de l'ordre du choix, d'une liberté qu'on acquiert. Et quand j'ai été enceinte de mon deuxième fils, j'avais très, 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 très peur, mais très peur. Je me disais, mais comment je vais pouvoir aimer ce deuxième enfant comme le premier ? C'est impossible ! Et puis, en fait, ça s'agrandit.
C'est le cœur qui peut grandir jusqu'à l'infini.
Exactement. Et cette chanson, elle est venue valider quelque chose et surtout déployer une énergie extrêmement positive que je peux redéclencher, je l'écoute et ça me fait toujours la même chose aujourd'hui.
«
To Zion, Lauryn Hill. C'était donc, Frédéric, le choix d'Aïssa Maïga.
Aïssa Maïga, que vous pourrez retrouver demain au cinéma dans le film Promis le ciel.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
De quoi parle-t-on avec vous aujourd'hui ?
Eh bien, on va s'intéresser aux lois omnibus dans la législation européenne et ça concerne en particulier l'écologie.
À tout de suite dans La Terre au Carré.